Une fois encore, ça fait plaisir d'être parmi vous. Je sais bien que tout le monde dit ça, mais c'est vrai, c'est l'occasion, chaque fois que j'ai l'occasion de venir en France, je viens ici. Je viens dans cette église de Prévesin qui m'est devenue très chère, que je connais depuis déjà fort longtemps. Nous vivons et donc nous devons faire face à des défis. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais nous avons des défis et parfois nous sommes devant des situations qui peuvent nous paraître inextricables et nous ne savons que faire. Ces situations nous semblent au-dessus, au-delà de nos forces. Eh bien, dans les Écritures aussi, il y a un certain nombre de personnages qui se sont trouvés devant des défis, des challenges, qui trouvaient bien trop grands pour eux-mêmes. Et c'est le cas de Josué. Josué, bon vieux Josué, l'aide de camp de Moïse, qui soudainement voit sa charge sur les épaules grandir de façon considérable puisque son maître est parti et il doit lui partir maintenant à la conquête d'un territoire qui est bien défendu par des peuplades plus nombreuses, mieux équipées, mieux préparées à la guerre que le peuple d'Israël. C'est lui le général, c'est lui qui commande. Alors moi à sa place j'aurais des sueurs froides. Malgré sa vaillance, et c'est un homme courageux qui l'a prouvé, il a besoin d'encouragement, comme chacun d'entre nous, tout comme le commun des mortels. Et Dieu se rend bien compte de la situation. Dieu sait tout. Dieu sait de quoi nous sommes faits, de la poussière, avec un peu de boue. Et pour le moment, ça tient, puisque vous êtes là. Dans le livre de Josué, dans le premier chapitre, nous lisons que l'Éternel dit à Josué, « Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Une citation qui vient du livre du Deutéronome. « Prends courage et tiens bon, prends courage et tiens bon. » Car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession au pays que j'ai promis par serment de donner à tes ancêtres, à leurs ancêtres. Simplement, prends courage. Il le répète, prends courage et tiens bon. Il le répète. Pour veiller aussi à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Josué a vu comment l'Éternel était avec Moïse et il reçoit la garantie de Dieu qu'il en sera de même pour lui. La promesse du succès est liée à la fidélité d'Israël à son Dieu et à l'obéissance de sa loi. Tout ce temps que nous sommes, nous avons besoin ici et là d'une tape sur l'épaule, une parole de réconfort et parfois d'un coup de main, vrai. Si votre maison brûle, par exemple, c'est sympa si quelqu'un vous téléphone et vous dit « viens donc habiter chez moi ». Ce besoin de soutien et d'entraide, c'est l'une des fonctions de l'Église. Vous êtes tous là dans l'Église, vous vous connaissez. Et vous devez vous aider les uns les autres. C'est comme ça que Dieu voit les choses et c'est pour cela, une des raisons du moins pour lesquelles il a conçu, créé, bâti son Église. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, « Dieu dit lui-même, je ne te délaisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas. Aussi pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours. » Je n'aurai pas de crainte. Nous sommes des êtres craintifs de nature. C'est le péché qui fait que nous sommes des êtres craintifs. Et nous avons besoin d'entendre Dieu qui nous répète, ne crains pas, D'ailleurs, cette phrase « ne crains pas » ou le synonyme apparaît 366 fois dans la Bible pour inclure aussi les années bissextiles. Le passage que je viens de lire et qui est tiré de l'Épître aux Hébreux fait généralement allusion aux richesses matérielles, c'est-à-dire que Dieu pourvoira. C'est la bonne attitude, en effet, vis-à-vis de tout ce qui nous entoure et des richesses, c'est d'apprendre, comme dit l'apôtre Paul, à être content de ce qu'on a et content de son sort. Cette attitude est possible parce que on n'affronte pas la vie seul, mais avec Dieu. Le Seigneur a promis à chacun de nous son aide personnelle. Il n'abandonne pas ceux qui lui font confiance, il n'abandonne pas ses enfants, il n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Il est donc possible de faire face à la vie avec courage. Et je crois que je peux dire, nous en avons la preuve avec Didier. Didier a eu plus d'épreuves que la moyenne et il a fait face à la vie avec courage. Il a eu le soutien des frères et sœurs dont il a eu besoin et les frères et sœurs étaient là pour le soutenir. Et ce qui est arrivé à Didier, en fait, c'est arrivé à nous tous. Quand il a souffert, nous avons tous souffert. Et c'est ça l'Église, c'est ça la communauté fraternelle à laquelle nous appartenons. Et c'est ce qui fait de nous véritablement des frères et des sœurs d'une même famille. Verset 8, chapitre 1. « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, dis-les à voix basse jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. » C'est une répétition. « Alors tu réussiras. » Josué et tout le peuple disposent des 5 livres de Moïse. Ils n'ont pas les 66 livres que nous avons. Ils n'en ont que 5, les livres de la loi. Ils ont tout ce qu'il faut cependant pour se rendre agréable à l'Éternel et ainsi bénéficier de sa bénédiction. En l'occurrence, en ce qui les concerne, la victoire militaire et la possession du pays promis. Il faut donc que Josué prenne la loi dans une main et l'épée dans l'autre, pour ainsi dire. Il y a bien des années de cela, et c'est une histoire vraie, un Anglais immigra aux États-Unis, puis disparut de la circulation. Quelque temps plus tard, son oncle, richissime, mourut et lui laissa 5 milliards de livres d'héritage. Scotland Yard essaya en vain de le retrouver. On savait seulement qu'il était quelque part à Chicago, et la police s'était persuadée qu'il était clochard. Finalement, un matin d'hiver, on l'a retrouvé, mort, gelé, dans l'entrée d'un hôtel nauséabond. Il ne s'était jamais soucié ni de son oncle, ni de son héritage. La terre promise que Dieu donne à Israël est un pays de lait et de miel, et tout ce que les Hébreux doivent faire est de le prendre et d'y vivre, conformément à la loi de Dieu. Mais ils ont négligé le premier et surtout ils ont négligé le second. Verset 9, chapitre 1. Je t'ai donné cet ordre. C'est encore une répétition. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu exhorte à nouveau Josué, son serviteur, à lui faire confiance, car mettez-vous à sa place, il a vraiment besoin d'encouragement. Il faut se mettre dans les sandales de ce pauvre homme. D'un côté Moïse, qui était son soutien, son appui, son confident, et qui n'est plus de ce monde. De l'autre, un immense peuple, au moins 3 millions de personnes, au minimum, sans doute plus, indisciplinés, qu'il a prouvé à maintes reprises, qui peut se retourner contre ses chefs à tout instant, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Devant lui, les Cananéens, comme je l'ai dit, bien plus nombreux que les Israélites, bien mieux équipés pour la guerre, avec des chars de guerre selon la mode égyptienne, et en plus, ils sont abrités dans des villes fortifiées. Voilà pourquoi Dieu répète sans cesse à son serviteur avant qu'il parte au combat, « N'aie pas peur, ne crains rien, je suis avec toi, prends courage. » D'ailleurs, dans le livre de Josué, nous avons 5 fois « N'aie pas peur, ne crains rien » et 3 fois « Prends courage et tiens bon ». Et ce n'est pas pour rien, il en avait besoin. À ce moment-là, aux tribus de Ruben, ça c'est dans le chapitre 1, versets 12, 14 et 16, nous avons une petite parenthèse, les tribus de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé, font partie des 12 tribus d'Israël. À ces personnes-là, Josué s'adressa ainsi et leur dit, « Vous qui êtes des hommes de guerre, vous passerez en ordre de bataille en tête de vos frères et vous leur prêterez main forte. » Alors ce qui est important, c'est ce qu'ils ont répondu. Ils répondirent à Josué comme un seul homme, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous voulons t'obéir en toutes choses. » Ces paroles expriment l'allégeance du peuple à Josué, leur nouveau chef militaire et politique. On ne suit quelqu'un que si on lui fait confiance. C'est vrai aussi pour nous. Quand nous annonçons la bonne nouvelle, quand nous annonçons l'évangile, il faut que nous soyons dignes de foi. Il n'y a aucune place pour l'hypocrisie. Il faut que les gens croient vraiment qu'ils peuvent nous faire confiance. C'est important. Maintenant, nous arrivons à l'histoire, une histoire assez faramineuse, l'histoire de Rahab. Vous savez tous qui est Rahab. Elle travaillait de manière diverse. Rahab monta, c'est chapitre 2, versets 8 à 11. Rahab monta sur la terrasse, vint trouver ses hôtes, c'est-à-dire ce sont des Israélites qui sont venus pour espionner le pays et qu'elle a caché. Elle est venue les voir avant qu'ils se couchent et elle leur dit, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Ah bon? Qui c'est qui t'a dit ça? La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous, car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer Rouge, la mer des roseaux devant vous, lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les rois amoréens Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, à l'est. C'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. De toute évidence, d'après ce que dit Rahab, les pérégrinations du peuple élu, c'est-à-dire d'Israël, sont connues des Cananéens. Ce n'est pas un secret. Ils ont tous entendu parler des hauts faits de l'Éternel depuis la sortie d'Égypte, donc, depuis les 10 plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la marche dans le désert qui a duré 40 ans, jusqu'à l'extermination des deux rois amoréens, qui sont également des Cananéens à l'est du Jourdain. Bon, Rahab a entendu parler de tout ça comme les Cananéens. Et elle, Rahab, en a déduit qu'Israël adore un Dieu qui surpasse tous les autres dieux parce qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre. C'est surprenant parce que figurez-vous qu'à cette époque, les païens croient que les dieux sont territoriaux, c'est-à-dire que leur sphère d'influence est limitée à une zone géographique bien dessinée, bien donnée et qui correspond à leur territoire. Si Rahab croit que l'Éternel est un Dieu supérieur aux autres, c'est que cette connaissance est répandue. Tous les Cananéens le savent, mais apparemment refusent d'y croire. Rahab, cependant, est prête à se confier en la puissance et à la miséricorde de l'Éternel. Il faut reconnaître que son discernement spirituel et sa perspicacité sont étonnants, et sa confession de foi est remarquable. On a du mal à se projeter dans son contexte. Alors, c'est un contexte païen pur et dur, et pourtant, elle a la foi en l'Éternel. Elle connaît les projets des Israélites, donc les Cananéens le connaissent également, ses projets. Elle connaît la puissance surnaturelle de leur Dieu, l'Éternel, et elle y croit. C'est toute la différence entre elle et les autres. Pour elle, l'issue des combats à venir ne fait pas de doute. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul affirme, et je ne vais pas lire le passage, que tous les êtres humains ont une connaissance innée de Dieu, du Créateur. Et donc chacun d'entre nous et chacun d'entre eux est responsable de chercher Dieu jusqu'à ce qu'il le trouve. C'est notre responsabilité dès que nous naissons. Et si je néglige cette responsabilité, je suis sans excuse. Je continue l'histoire, chapitre 2, 12 à 14, 17 à 21. « Maintenant, dit Rahab, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi vous traiterez ma famille avec la même bonté et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs et à tous les membres de leur famille et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. » Les deux hommes, les deux espions lui répondirent, « Notre vie répondra de la vôtre, pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous, car comme lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. » Les deux hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter lorsque nous serons entrés dans ton pays. » Attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Elle répondit, d'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. Puis elle les fit partir et ils s'en allèrent. Remarquez dans ce que je viens de dire que les deux espions ont dit, tu attacheras le cordon rouge à la fenêtre dès que nous entrerons dans le pays. Donc, d'accord. Et dès qu'elle les a fait descendre, que dit le texte? Aussitôt, elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Rahab, qu'est-ce qu'elle a fait là avec les deux espions? Elle a mis sa foi à l'épreuve. Elle a dit, bon, je crois en l'Éternel, c'est des représentants du peuple d'Israël, eh ben, c'est maintenant ou jamais. Elle utilise sa foi comme un instrument pour sauver sa vie et celle de toute sa famille. Et puis, remarquez qu'elle ne perd pas une minute, il n'y a pas de négligence, il ne faut pas attendre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit pareil. Trois fois, il dit, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. » Je continue le texte. Josué 3, 2, chapitre 3, versets 2 à 4. « Les chefs du peuple parcoururent le camp et donnèrent au peuple les ordres suivants. Quand vous verrez les prêtres emporter le coffre de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés, vous le suivrez. » Ainsi, vous saurez quel chemin emprunter, car vous n'avez encore jamais fait ce trajet. Moi, j'ai été interloqué par cette parole, la fin de ce verset. Vous saurez quel chemin emprunter, parce que vous n'avez encore jamais fait ce trajet. C'est vrai, les Israélites, ils arrivent aux portes du pays, ils ne savent pas où aller, ils n'ont aucune idée. On va à droite, on va tout droit, on va à gauche. Quand on commence sa vie chrétienne, on ne sait pas où on met les pieds. Je pense que c'était pareil pour vous, du moins si vous vous êtes converti en tant qu'adulte, mais le jour où vous misez sur Jésus-Christ, vous faites un immense pas et vous ne savez pas trop où il va vous conduire. Vous ne connaissez pas le chemin. On ne sait pas où on va, mais on sait que l'on va où Dieu se trouve, de la même manière que les Israélites ici. Qu'est-ce qu'ils font? Il leur est dit, vous allez suivre le coffre de l'Alliance. C'était le coffre sacré qui était la représentation symbolique de la présence de l'Éternel. C'est ce qu'on fait pareil. La marche chrétienne consiste à quitter quelque chose et aussi à quitter son petit confort et à suivre le chemin où on rencontre Dieu. Mais ce chemin, Dieu ne l'éclaire que petit à petit. On ne voit jamais le bout. Je continue. Josué dit au peuple, verset 5, chapitre 3, « Purifiez-vous, purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Alors, quel est le rapport entre les prodiges que Dieu va faire et « purifiez-vous » Cet ordre de se purifier a pour but d'enseigner aux Israélites que l'Éternel est saint. En fait, il est trois fois saint. Et donc, qu'on ne s'approche pas de lui n'importe comment. Plusieurs fois dans les Écritures, il est dit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, ou si vous préférez, de la compréhension de la vie. » Mes amis, il faut respecter Dieu. Il faut avoir pour lui une crainte respectueuse. Dieu n'est pas votre petit copain de régiment. Moi, j'ai fait l'armée, maintenant ça ne se fait plus. Et quand on est à l'armée, on se fait des collègues. Mais Dieu n'est pas mon copain de régiment. Dieu est trois fois saint. Il est le créateur de l'univers. Il est en dehors de l'univers aussi. Et même chez les non-croyants ne respectent pas Dieu, c'est compréhensible, mais c'est aussi fréquent chez les croyants de manquer de respect à Dieu, de ne pas reconnaître sa grandeur et sa sainteté. Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Dieu est trois fois saint et nous sommes pécheurs. Il faut bien garder ça à l'esprit. Et quand on s'approche de Dieu, il faut s'approcher de lui avec respect. C'est très important. La crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la compréhension de la vie. C'est la compréhension de votre chemin. Le Saint-Esprit vous révélera où vous êtes et où vous allez si vous craignez l'Éternel. C'est très important. Dans l'avion, en venant, on s'ennuie dans l'avion. Et moi, je ne peux pas dormir. Alors, je regarde ce qu'il y a comme film. Alors, il y avait le film Noé. Noé. Noé, c'est un personnage biblique. Ce film est absolument horrible. Ce film est un blasphème. Ce film est un blasphème du commencement à la fin. J'ai entendu des chrétiens aux États-Unis dire « Oh, il y a un certain nombre de choses dans ce film qui ne sont pas conformes aux Écritures. » Bon, quand j'ai entendu ça, moi, j'avais pas vu le film et j'avais pas l'intention de le voir. Hein. Je vais jamais au cinéma. Je l'ai vu parce que, comme je vous dis, dans l'avion, on s'ennuie à mourir. Et puis, j'ai regardé ce film. Je crois qu'il y a environ une minute du film qui est conforme à la Bible. C'est quand les flots balance cette espèce de bateau qui ne ressemble d'ailleurs pas à la description de l'arche, mais le reste, c'est un blasphème, un manque de respect pour Dieu. Alors que des gens de l'extérieur fassent un film comme ça, d'accord, mais que des chrétiens disent « il y a une dizaine de petites choses qui ne sont pas tout à fait conformes à la Bible », moi, ça me prend vraiment à rebrousse-poil. C'est pas une petite dizaine de choses, c'est la totalité de ce film qui est un blasphème, qui est un manque de respect pour le Créateur, un manque de respect pour l'Éternel. C'est une honte. C'est une honte que des chrétiens disent il y a un certain nombre d'anomalies. Il n'y a pas un certain nombre d'anomalies. Ce film est une honte. C'est une catastrophe. Bon, enfin, je m'éloigne du sujet, mais c'était quand même pour dire, c'était une illustration, pour dire qu'il faut respecter Dieu dans toute notre vie. Il faut respecter Dieu, même si nous sommes enfants de Dieu et que nous faisons partie de la famille de Dieu. Il ne faut jamais perdre de vue que Dieu est au ciel et que nous sommes sur la terre. Bien, maintenant j'ai perdu le fil. À cause des crues au moment où ceux, ça c'est chapitre 3, verset 13, au moment où ceux qui portaient le coffre arrivèrent sur les bords, et où les prêtres mirent les pieds dans l'eau, les eaux venant de l'amont cessèrent de couler et formèrent comme un mur. À cause des crues du fleuve, parce qu'à cette époque, le Jourdain est en crue, les Cananéens pensent qu'ils ont quelques semaines devant eux pour se préparer à se défendre des Israélites. Seul Rahab, vous vous rappelez, le petit cordon, seul Rahab s'est dit que ce ne sont pas les eaux, les crues du Jourdain qui vont empêcher l'Éternel de passer et que les choses risquent d'aller très vite, que les Israélites vont se trouver devant sa porte, risque d'un instant à l'autre. Et donc, elle a joué la prudence de la foi. Parfois, on présente l'évangile à quelqu'un qui semble intéressé, mais il traîne des pieds et avec l'usure du temps, il néglige de se confier en Jésus-Christ. Puis, au fil des années, il s'endurcit et c'est fini. Chapitre 5, verset 2. À cette même époque, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de silex et circoncis cette deuxième génération d'Israélites. » La circoncision exprime symboliquement la rupture avec le passé, idolâtre, passé, idolâtre. Ce rite par lequel l'Israélite entre dans l'alliance avec Dieu a son équivalent dans le Nouveau Testament, puisque dans le Nouveau Testament, il est question de la circoncision du cœur, appelée aussi régénération ou nouvelle naissance. Cette expérience spirituelle est généralement, pour nous, suivie du baptême d'eau. Baptême d'eau pour les adultes et les enfants en âge de le demander. Le baptême est un rite, un symbole et un témoignage public. Mais ce n'est pas un moyen de grâce, contrairement à ce qui est enseigné dans certaines autres familles d'Église. Le baptême d'eau ne permet pas d'entrer dans une alliance avec Dieu, c'est le baptême de l'Esprit. Je continue verset 10, chapitre 5. « Pendant que les Israélites campaient à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque. Après la circoncision, la Pâque. La Pâque le soir du 14e jour du mois dans les plaines de Jéricho. une fête très importante qu'on a d'ailleurs commémorée aujourd'hui. La Sainte Cène, c'est la Pâque. La Sainte Cène, c'est la Pâque. C'est le souvenir de la Pâque. La Pâque symbolise la délivrance de l'esclavage des Israélites et surtout le fait que l'ange de la mort a épargné les premiers-nés des Israélites parce que chaque famille avait enduit les cadres de sa porte d'entrée avec du sang frais d'un agneau sacrifié qui fut ensuite mangé avec des herbes amères et du pain non levé. Donc, c'est pour cette raison que nous, comme les Israélites avaient la Pâque, c'est pas que nous célébrons pas la Pâque, mais en fait, pour nous, ce qui compte vraiment, c'est la célébration de la Sainte Cène, parce que c'est comme ça que nous nous rappelons la Pâque, la vraie Pâque, c'est-à-dire quand Jésus-Christ est monté sur la croix et il a versé son sang sur la croix, et il a donné sa vie pour nous. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit dans le commentaire qui a été fait sur la Sainte Cène. Il a été dit que Dieu a vu le sang. De la même manière que pour la Pâque des Israélites, il y avait le sang sur les piliers des portes, l'ange de la mort a vu le sang et il a passé. Quand Jésus est mort sur la croix, Dieu le Père a vu le sang. Cet acte de crucifixion, dans une certaine mesure, c'était un règlement de compte entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Nous n'étions pas présents à la croix. À la croix étaient présents Dieu le Père et Dieu le Fils. Le reste de l'humanité ne comptait pas. Jésus-Christ, c'était alors notre champion, notre représentant. Mais c'était vraiment un règlement de compte, parce que Dieu a été offensé par le péché de l'homme, et ce péché demandait réparation. Et cette réparation a été faite sur la croix et nulle part ailleurs, et Dieu le Père a vu cette réparation. Et c'est, en termes théologiques, ce qui s'appelle la propitiation. Mais peu importe le terme. Mais c'est un aspect de la croix dont on parle moins. Le fait que c'était un règlement de compte entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et moi, je trouve ça formidable, cet aspect de la croix, parce que c'est vraiment là qu'on peut trouver l'assurance du salut. On a des versets, en particulier dans l'Évangile selon Jean, pour l'assurance du salut, mais la racine, la substantifique moelle de l'assurance du salut se trouve dans la propitiation, dans le fait que ce règlement de compte a eu lieu dans l'histoire humaine entre Dieu le Père et entre Dieu le Fils. C'était sérieux. Le péché de l'homme est sérieux aux yeux de Dieu. Et le péché de l'homme entraîne le châtiment éternel, tellement c'est sérieux. Alors, parce que notre offense contre Dieu est sérieuse, il y a eu cette réparation qui était sérieuse, qui est la propitiation. Ce règlement de compte entre Dieu le Père et Dieu le Fils qui a eu lieu il y a 2000 ans sur la croix. C'est en cela que nous croyons et c'est ça qui fait la différence entre le christianisme biblique et tout ce que les gens peuvent dire ou croire. Bon, je m'éloigne un petit peu, mais personne, en général, on n'aime pas la doctrine. La doctrine, c'est un peu fastidieux. Mais vous voyez, là, je vous fais de la doctrine, mais de la doctrine facile à comprendre. Puisqu'aujourd'hui, on a fait la scène, c'était l'occasion. Et que quelqu'un a justement dit, ces paroles, Dieu a vu le sang. C'est très important, ça. Dieu a vu le sang. De la même manière que l'ange de la mort a vu le sang sur les battants de porte des Israélites, l'Éternel a vu le sang de Jésus sur la croix. Et c'est aussi de cette manière qu'on peut approcher certaines personnes et pour leur parler du salut. Verset 11, chapitre 5. Le lendemain, les Israélites mangèrent des produits du pays, des pains sans levain et des épis grillés. À partir du lendemain de ce jour-là, la manne cessa de tomber puisqu'ils pouvaient se nourrir des produits du pays. Il n'y a plus eu de manne pour les Israélites qui vécurent des productions du pays de Canaan cette année-là. Verset 11, donc. Cette manne qui descendait du ciel tous les matins jusqu'à ce jour-là donnait la vie physique aux Israélites qui en mangeaient. C'est une image prophétique qui annonçait Jésus, la manne spirituelle qui donne la vie éternelle. Dans son évangile, Jean écrit que Jésus a dit « Je suis le pain de vie qui donne la vie. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert ». Et cela ne les a pas empêchés de mourir, mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. On revient toujours à la croix. Versets 2 à 5, chapitre 6. L'Éternel dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi et ses guerriers. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres sonneront du cor quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé. Tout le monde poussera un grand cri et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. » Toute l'armée d'Israël qui fait le tour de la ville tous les jours, ça, c'est impressionnant. On pourra faire un film. Mais militairement, aucune valeur. Certains précèdent et d'autres suivent le coffre sacré. Remarquez bien que le coffre sacré, la présence de Dieu, fait le tour de la ville aussi, sans arrêt. C'est le coffre sacré qui reçoit toute l'attention. Car il est le centre vital d'Israël, l'endroit où réside l'Éternel qui donne la victoire. En ce moment, je suis en train de refaire le livre d'Ézéchiel. Comme j'avance Ézéchiel, après Ézéchiel, ce sera 1 Timothée. Donc ça veut dire que tout ce qui est avant, j'ai refait. Et puis quand j'aurai tout refait, d'ici 2 ans et demi... Les éditions clés, parce que je ne suis pas tout seul à travailler, les éditions clés vont le mettre sur le site et la deuxième version est meilleure que la première. Je m'éloigne du sujet. Ce que je voulais dire, c'est que le premier chapitre du livre d'Ézéchiel a une description fantasmagorique de la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont un peu fêlés et qui disent que, en fait, Ézéchiel s'est trompé, c'était des extraterrestres. Mais si vous lisez ce premier chapitre, vous n'y comprendrez pas grand-chose et vous direz, mais qu'est-ce que ça veut dire? Cependant, comment est-ce qu'on peut décrire la gloire de Dieu en termes humains? Quelqu'un peut dire? Jésus dans la chair était une manifestation de la gloire de Dieu. Ézéchiel en a vu une autre, d'une manière tout à fait différente, et qui nous est tout à fait incompréhensible avec des êtres célestes couverts d'yeux, des chariots, des roues qui tournent dans tous les sens à la fois. C'est très, très curieux, mais ça explique aussi la grandeur, l'immensité de Dieu. Ce Dieu qui nous est lointain et qui nous est à la fois proche et que nous devons respecter. Bon, je continue le texte. C'est l'armée d'Israël qui fait le tour et je faisais une application. C'est que les croyants aussi sont des conquérants appelés à moissonner des âmes. Jésus a dit à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit et du fruit qui soit durable. C'est là notre vocation, c'est là notre mission. Cependant, tout comme Dieu a choisi Israël comme son peuple, c'est aussi Dieu qui choisit les élus. Il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui appelle, mais il faut lui répondre par la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, parlant de Rahab, « Par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu, parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. » Pourquoi elle les a accueillis avec bienveillance? Parce qu'ils étaient les représentants d'un peuple dont le Dieu est le vrai Dieu, l'Éternel. Alors que les Cananéens étaient dévoués par interdit, c'est-à-dire qu'ils devaient être exterminés, en la personne de Rahab, on voit fonctionner le principe inverse de l'interdit. Le principe inverse de l'interdit, c'est la foi qui sauve de la malédiction. Nous sommes maudits par Dieu. Mais nous jouissons du principe inverse de l'interdit par la foi qui sauve. Cette foi permet aux croyants de s'identifier au peuple de Dieu, et donc c'est ce que nous sommes ici dans cette église, le peuple de Dieu. Je continue avec le verset 1 du chapitre 7. Acan prit pour lui certains objets maudits, voués à l'Éternel, et l'Éternel se mit en colère contre les Israélites. Vous vous rappelez sans doute de cet incident. Acan, c'est un officier de l'armée israélite. Il n'a jamais eu l'intention de mal faire. Acan, il ne faut pas lui lancer la pierre. Il s'est seulement laissé tenter. On imagine facilement la scène. Il entre dans les ruines d'une habitation quand soudain, dans une sorte de penderie, il voit un manteau magnifique et par terre des sacs remplis de pièces d'argent et d'or. Il est tout seul, personne ne saura rien. Il enveloppe le tout, sort de la ville incognito, cache le magot en lieu sûr et voilà, ni vu ni connu. Sauf de l'Éternel qui prend note. Nous ne sommes pas au-dessus de la tentation qui a fait tomber Acan. Jacques écrit, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Environ 3000 soldats, verset 4 du chapitre 7, allèrent attaquer la ville d'Aï, mais ils furent mis en fuite par les habitants d'Aï, qui leur tuèrent 36 hommes. Voilà une défaite cuisante à cause d'une faute cachée. Une défaite cuisante à cause d'une faute cachée. C'est pareil dans la vie chrétienne. Dans le passage de 1 Corinthiens sur la Sainte Cène, d'ailleurs, Paul écrit « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne saurions pas juger. » Qu'on garde bien cela à l'esprit. Un peu plus loin, au verset 11 du chapitre 7, « Israël a commis un péché, on a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux, on a pris des objets qui m'étaient voués, on en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. » Vous avez au milieu de vous, Israélites, ce qui m'est voué. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas ôté cela du milieu de vous. Un seul homme a péché et tout le monde est affecté. C'est pareil dans une église, c'est pareil dans une famille. Un seul qui pêche et ça retombe sur tout le monde. Dans sa première épître aux Corinthiens, Paul écrit « Quoi ? Vous êtes enflés d'orgueil ? Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous ? Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous !» écrit l'apôtre Paul. Versets 24-25, chapitre 7, Josué, aidé de tous les Israélites, saisit Akan avec l'argent, le manteau, le lingot d'or, ainsi que ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tante. Bref, tout ce qui lui appartenait. Ils les menèrent dans la vallée d'Akor. Josué dit à Akan, « Pourquoi nous as-tu attiré le malheur ? Que l'Éternel fasse ton malheur aujourd'hui. » Alors tous les Israélites le tuèrent à coups de pierre. Ils lapidèrent aussi tous les siens et brûlèrent les cadavres. De notre point de vue, de mon point de vue, le châtiment d'Akan semble particulièrement sévère. C'est pas comme ça que Dieu va attirer du monde. Mais si je trouve Dieu trop sévère, c'est mon problème. C'est pas le sien. C'est à moi d'ajuster la vision que j'ai de Dieu pour la rendre conforme aux Écritures et à la personne de Dieu qui est saint. Oui, j'ai fini. C'est vrai, je suis un peu long aujourd'hui, je m'excuse. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur, ne crains rien. Emmène avec toi tous les soldats et va attaquer Haï, etc. Maintenant que l'abcès est vidé, le péché puni, Israël est victorieux, il n'y a pas de victoire dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, sans confession de péché. » Le dernier paragraphe, c'était dans le chapitre 24, ça l'est toujours d'ailleurs, c'est les dernières paroles de Josué. « Voilà, je m'en vais par le chemin que prend tout être humain, reconnaissez que j'ai jamais fait de mal. » « Maintenant donc, dit Josué, respectez l'Éternel, servez-le de façon irréprochable, avec fidélité, rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate en Égypte, et rendez un culte à l'Éternel, quant à moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. » Voilà, Jésus aussi a dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, on ne peut pas servir Mammon, qui est le dieu de l'argent, et Dieu. » Il faut choisir. C'est très facile, trop facile pour chacun d'entre nous de devenir idolâtre, une passion, un sport, un loisir, une personne, un animal, une occupation, le travail, un objet, une bagnole, un souvenir. On peut facilement devenir idolâtre. C'est pourquoi il faut choisir. Et nous pouvons prendre Josué comme modèle. Quant à moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. Merci de votre patience.
Merci Jacques. Et puis quand je vous dis à chaque fois que moi je prends la parole, à quel point la parole peut vous prendre lorsque vous apportez un message. On a encore la démonstration ce matin que cette parole est une parole vivante et qui ne laisse pas les prédicateurs insensibles. Je voudrais faire quelques annonces en rapport avec notre vie d'église. Tout d'abord, un certain nombre d'événements qui auront lieu cette semaine. Pierrick, si tu peux les afficher. Donc, ce qui aura lieu cette semaine, donc, nous l'avons dit à propos de la cérémonie en mémoire de Liliane, elle aura lieu demain après-midi, ici dans cette salle même, à 15h. Ensuite, il y aura une partie aussi qui aura lieu au cimetière à la suite. Donc, vous êtes tous naturellement invités pour venir à cette cérémonie en mémoire de Liliane, mais aussi pour entourer la famille de Liliane à cette occasion. Le soir, il y aura une répétition de la chorale. Mais vous savez, cette chorale qui se joint en ce moment à la chorale de Saint-Genis pour préparer la fête de Noël, et on y reviendra plus tard. Mais enfin, à 20h30, la répétition aura lieu à l'église de Saint-Genis. Donc, une semaine sur deux, c'est ici ou c'est à Saint-Genis, mais cette fois-ci, ça sera à Saint-Genis demain soir à 20h30. Mardi 21, les cellules donc auront lieu à Prévecin. La cellule de Prévecin aura lieu chez nos amis Emmanuel et Rebecca. Celle de Collonges aura lieu chez...
Non, c'est plus, il y a plus, quand on est
tous en congé. Tous en congé, d'accord. Donc elle aura lieu chez les Brabants. Et celle de Gex aura lieu chez Annelise. Annelise qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais en tous les cas, pour ceux qui fréquentaient la cellule de Gex, elle aura lieu chez Annelise. Samedi, 20h, le groupe de jeunes. Je voulais simplement savoir, est-ce que les ados, vous avez une activité non, pas ce samedi-ci. Et puis dimanche prochain, le culte à 10h, mais souvenez-vous, nous changeons d'heure dimanche prochain. Alors si jamais vous oubliez, il n'y aura peut-être pas trop de problèmes, vous serez là simplement une heure à l'avance. Vous ne louperez pas le culte comme ça, mais enfin bon, si vous voulez dormir une heure de plus, pensez à changer l'heure samedi soir avant de vous coucher. Ensuite, je voudrais simplement attirer l'attention aussi sur un certain nombre d'événements qui arrivent à grands pas là, dans les semaines qui viennent, et je voudrais que vous le sachiez, donc en ordre chronologique. Le dimanche 9 novembre est le dimanche de l'église persécutée, que nous avons l'habitude de quoi, je ne sais pas si on célèbre ce dimanche et ce culte, mais en fait, on pense vraiment et on prie pour l'église persécutée dans le monde, avec plein d'autres églises qui se rassemblent autour de l'initiative de Portes Ouvertes. Mais dès le samedi après-midi, nous aurons en fait ici un séminaire avec une personne, Christian Bibolet, qui est un spécialiste aussi de l'islam. Et on voulait avoir un peu une après-midi qui nous aide à mieux comprendre l'islam, mais l'islam d'aujourd'hui aussi. Et donc, dans cet après-midi, donc, ça sera une après-midi, on vous donnera un peu plus le détail sur comment elle sera structurée, mais il y aura trois sujets que Christian va aborder. Le premier, ça va être naturellement nous aider à mieux comprendre ce qu'est l'islam, donc ce sera un petit peu un survol, mais ça nous rappellera un petit peu certains souvenirs que nous avons, ou alors nous apprendra quels sont vraiment les fondements de la foi musulmane. La deuxième va être en fait ce que les musulmans en fait reprochent aux chrétiens. Et pourquoi ils ne sont pas convaincus par l'évangile et par le christianisme, et quelles sont en fait les questions qu'ils posent aux chrétiens ou les points de désaccord qu'ils ont. Et ça pour nous aider aussi à entrer en dialogue avec les musulmans. Et puis le troisième sujet sera en fait ce que Christian appelle la crise de l'islam aujourd'hui, et qui est pourquoi est-ce que nous vivons dans cette grande tension aujourd'hui entre l'islam et le christianisme, entre l'islam et le reste du monde. Et là, Christian voudrait regarder un petit peu ce que traverse l'islam aujourd'hui et qui l'a amené en fait à prendre des positions très radicales telles que nous les connaissons aujourd'hui. Donc tout cet après-midi sera vraiment pour nous aider à mieux comprendre aussi ce qu'est l'islam aujourd'hui et comment nous pouvons éventuellement entrer en dialogue avec lui. Christian ne sera pas disponible pour le culte du 9, donc le lendemain. Nous aurons notre culte ensemble à ce moment-là, mais qui sera aussi focalisé sur l'Église persécutée. Je rappelle aussi que, comme nous l'avons déjà annoncé, que les jeudis 6, 13 et 20 novembre, nous avons le parcours baptême. Toutes les personnes qui sont intéressées par le baptême, ce que ça signifie et si le baptême est pour elles, n'hésitez pas à vous inscrire à cette série qui aura lieu donc les trois premiers jeudis du mois de novembre. Ensuite, le 28 et le 29, la banque alimentaire. Vous savez que depuis des années, nous participons avec d'autres églises à recueillir des aliments dans les différents supermarchés du pays de Gex. Et donc, cette année encore, nous voulons y participer le vendredi et le samedi 28 et 29 novembre. Il est possible de s'inscrire pour cela sur notre... Jean-Paul, vas-y. Normalement, sur le site.
Oui,
on peut s'inscrire sur le site.
Je vous recommande de vous inscrire sur le carrefour de Senis. On va essayer de se polariser sur le carrefour de Senis.
D'accord.
Parce que Saint-Genis risque de se polariser sur Saint-Genis qui n'était pas traité l'année passée.
D'accord.
Donc, il y a plusieurs magasins en plus cette année. Je vous invite vraiment à vous engager. D'accord. On sera moins de personnes. Donc, on a aussi plus de boulot, mais c'est un petit peu organisé autrement. Donc, sur le
D'accord.
carrefour de Saint-Genis, s'il vous plaît, en priorité.
Donc là, vous aurez le choix des magasins et tout, mais s'il vous plaît, si on peut concentrer nos forces là-dessus. Et ensuite, le 6 décembre et le 20 décembre, il y aura donc le concert fête de Noël. Cette année, donc pour ceux qui ne le savent pas, toute la pièce maîtresse de notre fête de Noël va être en fait un concert qui sera donné par notre chorale et la chorale de Saint-Genis ensemble. C'est pour ça qu'elle répète. Et donc, nous aurons le 6 décembre notre propre fête concert de Noël qui sera suivi d'un buffet dînatoire. On est encore en train de voir un petit peu comment ça va se passer. Donc il y aura un petit peu un changement de concept dans la façon dont nous allons marquer et célébrer Noël cette année, mais qui sera vraiment focalisé autour d'un concert de Noël. Ce concert de Noël sera donné une deuxième fois, le 20 décembre, donc à Saint-Genis, et ce sera donc à ce moment-là organisé par l'église de Saint-Genis. Donc prenez note de ces dates-là aussi, on vous donnera précisément l'heure là, dans les semaines qui viennent, mais aussi ne vous attendez pas à ce que nous ayons une fête comparable à ce qu'on avait les années précédentes. Encore une fois, nous faisons preuve de créativité et nous changeons un tout petit peu le concert, la forme de cela. Je voudrais maintenant, naturellement, nous porter notre attention un tout petit peu sur les personnes dans notre communauté. Jacques nous a rappelé tout à l'heure que nous étions une communauté où nous étions là, nous avions des responsabilités les uns envers les autres et nous voulons continuer à la fois de nous réjouir avec certaines personnes et de ce que Dieu fait dans leur vie et en même temps continuer à porter dans les moments de difficulté ou dans la peine des personnes de notre Église. Et là encore, comme il a été dit au début du culte, nous voulons vraiment partager la douleur et la souffrance de la famille Geyser en ce moment, la famille de Liliane. Et nous voulons prier pour eux durant cette semaine afin que Dieu les fortifie, Dieu les encourage. Il y a toujours un mélange de sentiments durant ces périodes-là, mais que le Seigneur vraiment les soutienne et les garde dans ces moments de douleur et de séparation. Nous pensons aussi à tous ceux en particulier plutôt nos anciens qui en ce moment souffrent dans leur santé. Annise continue à avoir un certain nombre d'examens pour sa santé. Guylaine Cuppers aussi, elle est souvent très discrète, ne veut pas toujours en parler, mais nous savons qu'elle aussi traverse des moments difficiles en ce moment pour sa santé avec des examens à répétition et nous demandons que Dieu la garde elle aussi dans ces moments-là et aussi que les médecins puissent trouver ce qu'il y a de mieux pour elle aussi. Et je voudrais peut-être aussi que nous pensions tout particulièrement à nos anciens dans l'Église. Nous avons une Église qui a une configuration unique dans le sens où nous avons tellement de générations dans notre Église et nous avons cette génération de plus anciens. Et c'est vrai que souvent la santé est vacillante, mais les jours passent, les années passent. Et puis lorsque un frère ou une sœur disparaît à un moment ou à un autre et rejoint la patrie céleste, c'est certainement un moment où nos frères et sœurs plus anciens se posent aussi des questions dans leur propre vie. Ils doivent tenir ferme et où leur espérance doit être renforcée avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est un moment par lequel nous passons tous, mais nous devons penser à nos frères et sœurs qui, eux, sont peut-être au crépuscule de leur vie et qui regardent les choses différemment que nous, qui peut-être regardons encore souvent vers l'avenir. Et nous prions que, en ces jours où certainement beaucoup qui ont connu Liliane pendant très longtemps, peut-être se posent aussi des questions par rapport à leur propre vie et combien de temps encore Dieu leur prête à vie. Mais nous pouvons prier les uns pour les autres dans ce sens-là. Et je vous invite vraiment à prier pour nos frères et sœurs qui vivent ces années-là, qui vivent ces mois-là. Mais que ce que Lydia nous a rappelé ce matin, c'est que nous regardons au-delà aussi. Et que nous avons une récompense et une espérance qui va au-delà de cet événement. Donc je vous invite vraiment cette semaine à porter dans la prière nos anciens, nos personnes âgées et que le Seigneur les garde vraiment. Et peut-être une autre chose aussi qui nous a été rappelée, vous le savez, mais nous avons reçu cette semaine un email de la part d'Andrés Binden qui lui l'a reçu d'autres personnes aussi, c'est à propos de tous nos frères et sœurs qui se trouvent actuellement dans le nord de l'Irak et dans tout ce territoire qui est disputé en ce moment entre Daesh et entre les Irakiens et entre les Irakiens, les Iraniens, pas les Iraniens, les ça y est, j'ai oublié toute ma géographie. Mais là-bas, il y a des choses atroces qui sont en train de se passer. Il y a des choses atroces qui sont en train de se passer. Et les emails qu'on reçoit décrivent des choses où des responsables d'église et des pasteurs sont absolument désespérés parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Et c'est ce qui est en train de se passer ces jours-ci, dans les heures où nous nous vivons. Et là, nous avons peut-être quelque chose de tout particulier à faire dans la prière, là aussi, que le Seigneur garde son peuple. Je ne sais pas toujours ce que ça signifie, garder son peuple dans ces circonstances. Mais prions pour eux. Parce qu'il y en a certains qui ne vivront pas jusqu'à la fin de cette journée. Certains verront des atrocités qu'on n'arrive même pas à imaginer. Nous, on les enlève de Facebook avant qu'ils soient diffusés. Et qu'est-ce que ça signifie d'être chrétien à ce moment-là, lorsque tout est en train de vaciller? Combien est-ce qu'ils ont besoin de l'aide du Saint-Esprit dans leur vie pour les aider à tenir ferme? Alors, je vous invite à prendre quelques instants. Et peut-être si deux ou trois personnes voudraient bien prier pour ces chrétiens et prier aussi pour la famille de Liliane. Nos prières ne sont pas vaines, le Seigneur nous dit qu'il les entend, même si elles ne sont pas dites avec les plus belles paroles. Mais le Seigneur les entend. J'invite deux ou trois personnes à bien vouloir prier. Et Seigneur, nous ne voulons pas nous résigner et accepter les choses. Et nous voulons prier, Seigneur, et lutter dans la prière afin que tu soutiennes tes enfants qui traversent l'épreuve. Seigneur, que ce soit là-bas, en Irak, ou que ce soit, Seigneur, ici, dans la famille de Liliane, Seigneur, nous voulons te demander que ton espérance soit quelque chose que tes enfants puissent vivre à chaque instant. Seigneur, que ta paix, qui n'est pas une paix que le monde donne, mais une paix que toi tu donnes, puisse être dans leur cœur, en dépit des circonstances. Seigneur, nous savons que toi, tu es là avec eux en ce moment, dans les pleurs, dans les doutes, dans la peur. Et Seigneur, nous te demandons que tu continues d'être là et de les soutenir. Et Seigneur, si c'est ta volonté, nous te demandons de marquer un arrêt aussi à tous ceux qui veulent agresser et faire du mal, tuer, détruire. Et Seigneur, nous te prions que tu marques cet arrêt, que tu protèges tes enfants. Au nom de Jésus, amen. Et puis aussi, il y a de bonnes nouvelles dans notre Église. Et je vous invite aussi toujours à contempler les belles choses que Dieu fait dans notre Église et à le louer pour ça. Mais cette semaine, nous voulons aussi être extrêmement reconnaissants, Seigneur, pour l'opération d'Audrey qui s'est passée peut-être mieux qu'on ne pouvait imaginer. La semaine dernière, on pensait que peut-être elle ne serait pas opérée parce qu'il y avait certaines circonstances qui le permettraient peut-être pas, mais apparemment, elle a pu être opérée. Elle est là parmi nous aussi, toute fraîche et belle, et nous voulons être reconnaissants au Seigneur de ce qu'il a fait dans ce cas-là. Et puis, en tous les cas, de la part d'Emmanuel et Rebecca, remercier tout le monde qui l'a portée dans la prière et qui l'encourage, la soutienne, et puis soutienne aussi Emmanuel et Rebecca. Je vous invite à vous lever pour... Oui, Raymond.
Juste une info, on a commandé des livres.
Tout à fait.
Connaître Dieu qui sont la librairie pour ceux qui auront à cœur de participer
à la
publique et de pouvoir se porter ces livres.
Je l'avais noté, mais merci de me rappeler. Et je voudrais simplement vous relire ces versets que Jacques a lus ce matin, que moi j'avais déjà lus et qui sont un petit peu la tonalité de ce que nous voulons réfléchir dans les semaines qui viennent. Ça y est, j'ai perdu dans Josué, j'y vais vite. Où le Seigneur dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Fortifiez-vous, ayez bon courage, prenez appui sur la parole et les promesses du Seigneur. Bonne semaine à chacun et à chacune. »